Je m'appelle Aurore, j'ai 25 ans, donc je suis jeune diplômée et actuellement en recherche d'emploi.
Bah voilà, bah moi ce que je pense des hommes, premièrement j'étais mariée deux fois, j'étais très déçue, mais ça c'est rien, l'échec sentimental ça arrive à tout le monde.
Bon, en tant que femme, on voudrait être entre guillemets parfaite.
Je travaille dans le commerce, j'ai un enfant, je suis divorcée.
Cette émission radio est entièrement réalisée par des femmes, sur des femmes, et s'adresse à tout le monde. Retrouvez l'émission Elle cause sur Radio PFM.
Chaque premier lundi du mois sur PFM à 21h30, rediffusion le jeudi à 16h et dans la nuit du jeudi au vendredi à 1h du matin.
Vous écoutez Elle cause, émission faite par des femmes, sur des femmes et pour tout le monde.
Donc la France a une longue histoire d'émigration, d'immigration et de colonisation. On entend très souvent parler du phénomène en tant que tel, mais pourtant au-delà du phénomène, c'est aussi, c'est en premier lieu en tout cas une expérience et une réalité vécue par des hommes et des femmes. Et donc à savoir si cette expérience a une particularité pour les femmes, sans doute. En tout cas, on a voulu donner la parole à des femmes qui ont migré. Elles ont des âges et des horizons variés et des parcours divers. Et donc voilà, on va vous les présenter.
Ouais, voilà, on a recueilli le témoignage de Catherine, qui est arrivée de Pologne à 6 ans avec ses parents au début des années 30.
Il y a aussi Tsukasa, qui est japonaise. Elle a 35 ans, elle vit depuis 2 ans et demi en France.
Marie Lourdes vient de l'île Maurice et elle a rejoint son futur mari en France il y a maintenant une dizaine d'années.
Il y a aussi Meriem, étudiante qui a 24 ans et qui est arrivée à 18 ans en France du Maroc.
On entendra aussi Renée, une Guadeloupéenne qui a une trentaine d'années, comme Loreto aussi, qui elle est chilienne. Et elles ont en commun d'être arrivées en France il y a 5 ans maintenant.
Elisabeth, qui est française de métropole et qui était partie s'installer à Wallis avec son mari foutounien à la fin des années 70. Et elle en est repartie 20 ans après, en 1999.
Enfin, nous avons recueilli le témoignage d'une mère au foyer algérienne qui est depuis 1984 en France.
Pour précision, Wallis, c'est un dom-tom français. Comme c'est pas très connu, voilà, c'était juste pour préciser. Un tom, exact. Alors, toutes ces femmes, en fait, nous ont répondu à des questions sur des thématiques diverses dont on avait envie de parler. Alors, on a réparti ça, en fait, en deux documentaires audio. On va en diffuser un aujourd'hui et le deuxième dans un mois à la prochaine émission. Donc, celui d'aujourd'hui, il tourne autour des thématiques de la représentation de la femme dans les médias, de l'image que leur renvoie la France sur la beauté corporelle, sur ce que c'est, sur les critères de beauté, grosso modo. Aussi sur leur rapport à leur communauté, si on peut parler clairement de communauté, et aux codes culturels divergents par rapport au pays d'où elles viennent. Et enfin, vous les entendrez parler de leur rapport aux institutions. Bonne écoute.
J'ai jamais entendu parler des Polonais.
D'accord.
C'est toujours des hôtes étrangers, mais polonais, j'ai jamais entendu parler. C'est triste. J'aurais mieux vouloir attendre un petit peu plus parler des Polonais à la télé.
Je trouve pas beaucoup les images du Japon dans l'émission en France. Peut-être parce que c'est à cause que le Japon est le pays très loin, très petit. Je voudrais que le Japon va être traité un peu plus, la situation un peu plus importante politiquement, économiquement, c'est mon souhait. Je voudrais expliquer devant les Français et Françaises, surtout le Japon actuel, le problème des femmes qui veulent continuer à travailler, mais qui veulent aussi avoir les enfants comme ça.
Je pense qu'il y a trop de clichés, en fait. Non, je ne me reconnais pas. Il y a énormément de clichés, l'islam, qui serait une religion un peu différente des autres. Je connais plein de gens, par exemple, qui pratiquent la religion, mais tranquillement, sans que ce soit un obstacle à leur vie ici en France. Et je trouve aussi qu'on parle un peu trop de nous, déjà. Comme si... comme si on était le problème numéro un de la France. Franchement, moi, je pense qu'on devrait un petit peu nous lâcher. Les gens, ils ont une certaine image dans leur tête. Hein, ils se représentent l'émigré. Enfin, ça dépend des émigrés aussi. Mais je suis en train de parler, par exemple, des Algériens ou des Maghrébins. On parle de nous... Mais je ne suis pas sûre qu'on nous connaisse vraiment. Et je ne suis pas sûre qu'on soit aussi si différent, fondamentalement différent des autres aussi. Parce que ce regard se prolonge quand même sur ceux qui sont nés ici. C'est ça que je voulais dire. Et des jeunes qu'on traite comme si c'était différent, comme s'ils étaient différents, moi je pense que ça peut avoir un effet destructeur.
Je ne me vois pas du tout avec un boubou sur la tête, avec une grande robe. Je veux dire, moi, je passe comme une femme, n'importe quelle femme, je veux dire, qui vit en France ou une Française. Je n'ai pas de signe distinct par rapport aux autres, non, pas du tout.
Donc, est-ce que tu as l'impression d'être représentée ?
Pas du tout non plus. Oui, j'ai l'impression que finalement, c'est bien, je dérange personne, je suis dans mon petit coin, et je fais mon petit coin, je fais mon petit... je fais ma route dans mon coin, quoi. Donc, non, ça m'est égal.
Dans les discours véhiculés par les médias, pour faire bref, c'est quand même une certaine image de la femme migrante, donc voilà, enfin de la femme du Maghreb, qu'il y a une certaine image qui est véhiculée, qui ne représente pas du tout mon mode de vie, ni comment je suis, ni comment même je vivais quand j'étais au Maroc. Quand on va parler d'une femme rebeu à la télé, par exemple, alors c'est où la migrante qui vient d'arriver, qui a du mal à parler français, et qui galère parce que la France c'est trop dur, mais qui est trop contente parce que moi ici elle vit bien et tout ça, quoi. Enfin, des clichés de femmes. Ou c'est la nana de la Tessie qui parle trop en verlan et qui est en train d'incendier un flic qui vient d'arrêter parce qu'elle a piqué un truc dans un magasin, ou alors le modèle de la working girl qui s'en est sortie. Et donc c'est la nana qui vient aussi de la misère et de la cité, mais qui a fait des études et qui a pu s'en sortir du carcan et du joug de sa famille qui l'a maltraitée trop parce qu'elle avait pas le droit de sortir et que du coup bosse dans une boîte. Enfin là je fais de la caricature, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils représentent à la télé. C'est les clichés, les caricatures de femmes arabes.
Et par rapport aux médias, publicité, même par rapport au discours présidentiel, par moment, je trouve qu'on est carrément à côté de la plaque, quoi. Après, par rapport à ma situation, si tu veux, d'antillaise, j'ai pas l'impression qu'ici en métropole, ce soit vraiment des sujets qui sont relatés régulièrement, où on parle de cette prise de position par rapport aux îles. Et au développement aussi de ces îles par rapport au capital et tout ça. Mmh. Mais moi, en ce qui me concerne, je me sens pas, si tu veux, dans un moule, quoi.
Je suis arrivée donc en 80... Non, qu'est-ce que je raconte ? En 79, sur l'île de Wallis. Alors à l'époque, il n'y avait pas de médias, ni télé, ni radio. Donc pas de problème avec les médias, étant donné qu'il n'y en avait pas.
Siedem dni i znowu kwiecień świeżą przyniósł zieleń. 16 lat i 7 dni, niby niewiele, jednak bardzo wiele. Nie śmiejcie się, nie bądźcie źli, że w moich myślach taki straszny zamęt. 16 lat i 7 dni i od tygodnia serce zakochane. Zwykły tydzień, tyle dni, co kolorów tęczy. Pomaluje cały świat, świat 16 mych lat. Wiem, dlaczego radosne szczęśliwe są dni. Kocham cię, drogi, ktoś szepnął mi, wiem, wiem, dlaczego radosny, szczęśliwy jest świat, świat 16 mi gra. Szesnaście lat i 7 dni i znowu kwiecień świeżą przyniósł zieleń. 16 lat i 7 dni, niby niewiele, jednak bardzo wiele. Nie śmiejcie się, nie bądźcie źli, że w moich myślach taki straszny zamęt. 16 lat i 7 dni i od tygodnia serce zakochane.
Alors à l'époque, il y a 30 ans, parce que ça aussi je pense que ça a dû un peu évoluer, les critères physiques, les critères de beauté pour une femme, c'était d'être le plus pâle possible. Donc là, j'avais tout juste, si je puis dire, puisque j'étais blanche. En revanche, moi j'avais l'habitude, parce que moi mes critères à l'époque, c'était plutôt, quand je suis arrivée, d'être bronzée, quoi. Donc une belle femme là-bas, c'était une femme forte et grasse. Je pense que ça a évolué maintenant. Bon, moi j'étais, je me portais bien, mais enfin j'étais pas spécialement forte. Et puis je tenais quand même à garder ma ligne. Et je crois que tout le long de mon séjour là-bas, on m'a toujours dit que j'étais maigre. Alors que j'étais pas maigre du tout, j'étais normale. Après, il y avait un autre critère, mais ça mon mari n'était pas très intéressé par ce détail. C'était la pilosité. Une femme, une belle femme, c'est une femme qui avait des poils, aux jambes notamment. Donc là, je me suis jamais adaptée, j'ai jamais cherché à m'adapter. Mais je pense aussi, parce que j'étais pas bien dans ma peau, même ici, hein, quand j'étais en France, donc je me disais avec raison que je n'arriverais jamais à être comme une Wallisienne, hein, ou comme une Polynésienne, danser le tamouré, avec des cheveux magnifiques, non. Donc ça m'a un peu gênée, puis après, bon, je me suis sentie plus ou moins mieux dans mon corps, et de mieux en mieux, donc après je me suis dit que chacun avait son genre de beauté, voilà.
Par rapport à la minceur et tout ça, par exemple, c'est je crois que c'est bien arrivé en Algérie. Hein. Les femmes veulent tout être minces actuellement et tout ça. Et pour les femmes de ma génération et qui sont allées à l'école, au lycée, c'est un peu comme ça, quoi. Je ne vais pas dire normal parce que c'est pas moi qui décide de ce qui est normal ou pas. Mais je veux dire, c'est. Voilà. J'ai pas eu à m'adapter à une autre façon de m'habiller, la coiffure pareil. D'accord. Voilà.
Moi, au Chili, on peut dire que je suis maigre, tu vois. Mais si, je suis grosse, tu vois. Si, ouais, on peut voir ça, ouais, ici, ils sont toujours plus préoccupés peut-être de la, comment dire, de pas trop maigrir. Bah, des fois, j'ai des copines qui sont, tu vois, comme ça, très très minces, et ah non, je vais pas manger ça parce que je vais grossir, tu vois, des choses comme ça, ouais.
Moi, par exemple, moi qui viens de l'île Maurice, on parle toujours de Maurice, belle plage et tout, que les femmes, elles sont toujours belles, c'est des oiseaux des îles, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, j'étais quand même un peu surpris d'entendre ça parce que je n'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs, quoi. Je veux dire, chez nous, on a des filles qui sont laides, des filles qui sont belles. Et voilà, quoi.
Est-ce que tu as l'impression que la beauté est la même
Ah oui, bah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La preuve que moi, quand je suis arrivée, j'avais pris un peu de kilos, on va dire, et que moi, finalement, j'étais hyper complexée parce que toutes les filles, elles étaient toutes minces, avec le ventre à l'air un peu, et des mini-jupes et tout, alors que moi, je suis pas habituée, je suis toujours avec mes... Pas mes longues robes, mais des robes jusqu'aux genoux. Donc, c'est vrai que j'étais pas très habituée à ça. Oui, on est plus en rondeur et c'est beaucoup mieux apprécié. Alors qu'ici, c'est vrai que je me sentais un peu trop arrondie, quoi. Donc,
Et en même temps, un peu avant, tu disais qu'en même temps, on te trouvait belle.
Oui, c'est ça. Oui, ouais. Oui, c'est ça. J'étais hyper fière de comment j'étais coupée, ouais. Quoi. Et d'un coup, finalement, bah, il n'y avait plus ça du tout. Je ne voyais plus le côté qui me mettait en valeur là-bas. Ici, ce n'était plus du tout ça, et plus le même critère. Donc voilà, quoi, tout a changé.
Ici, il faut être svelte et anorexique pour entrer dans les carcans des canons de la beauté qu'on te vend dans Vogue et dans Elle Magazine. Au Maroc, c'est bien d'être un peu plus, alors pas très forte ni très mince, mais un peu dans un entre les deux, qu'on puisse empoigner un peu de chair, quoi, enfin clairement, parce que enfin, c'est les mecs qui définissent les normes de beauté, c'est pas les femmes, c'est les mecs qui définissent ça c'est beau, ça l'est pas, et voilà, pareil, là de plus en plus, on a aussi le cliché de la blonde à forte poitrine, bah c'est un truc, c'est l'image qui excite les mecs. Aussi de plus en plus au Maroc, mais on est quand même sur d'autres critères de beauté, sur des femmes qui sont brunes. Après, au Maroc aussi, de plus en plus, toutes les nanas sont en train de se tartiner de crème pour se blanchir la peau, alors qu'on n'a pas la peau blanche, et donc c'est juste pour gagner un peu plus des paliers de blancheur ou se lisser les cheveux. Quand on arrivait en France, j'ai pas ressenti le besoin de m'adapter à d'autres normes, parce que j'étais plus ou moins déjà dans les normes, enfin pas françaises, mais dans des normes un peu occidentales, entre guillemets, parce que moi j'ai vécu mon adolescence au Maroc. Enfin, j'ai vécu jusqu'à 18 ans au Maroc, et du coup, de fait, là, j'ai un grade d'adolescence, là, on est un peu en rébellion contre tout, parce que c'est trop merde la vie dans laquelle on vit, et ben moi, j'étais déjà en transgression par rapport au code marocain. Ça veut dire que j'ai eu mes dreads, j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier anneau dans le nez, j'en avais 16 et demi ou 17, j'étais tout le temps avec des jeans troués, mes petites converses quand j'avais 16 ans, et du coup, à la base, j'étais en transgression par rapport au code marocain, et de fait, là-bas, je passais pour une extraterrestre, parce que... Ou on parlait en français ou dans une langue étrangère en croyant que j'étais une touriste alors que c'est genre mes voisins et que je les vois tous les jours, quoi. Ou en me disant, ou on me sortait des trucs, mais pour qui tu te prends, t'es marocaine, t'es pas censée faire ça, t'es pas une étrangère, et blablabla. Et du coup, par rapport aux codes ou aux normes vestimentaires ou de critères de beauté, en arrivant ici, j'étais plus ou moins dans une espèce... Ouais, j'étais au fait... Enfin, j'étais pas spécifiquement dans la norme de ce qu'est censé être une fille, toute girly et tout, mais j'étais dans la norme des jeunes comme moi qui étaient aussi un peu babaches. Et du coup, oui, je suis certainement, enfin, je pense pas que je sois originale, je suis certainement dans une certaine norme, mais qui est plus la norme du milieu militant dans lequel je traîne.
Les gens, ils te voient comme que toi, comme tu viens de là-bas, que tu es, tu danses mieux, ou tu vois, des choses comme ça, que tu as plus peut-être sensualité, ou je sais pas. Et des fois, bah, il y a même des copines, mais moi qui viens aussi de Sud-Amérique, tout ça, ils savent même pas danser. Hein. Les gens, ils croient que tous on danse très très bien, mais des fois on sait même pas danser. Ouais.
C'est vrai qu'on est harcelé par les publicités, que ce soit à l'arrêt de bus, à la télévision, pour des produits, des choses comme ça, même pour les cheveux, du moins. Moi, mon cheveu, c'est pas voilà, c'est un cheveu un peu crépus, quoi. C'est pas pareil, mais je suis pas dans cette optique, quoi. J'en sens pas le besoin, si tu veux, ouais. Donc ça va, quoi. C'est vrai que tout le monde essaie de se comparer. Je me disais, ah oui, bah, elle, j'aime bien ses cheveux, j'aime bien si, mais bon, j'ai pas ça. Donc par moment, j'étais un peu mal à l'aise, si tu veux. Mais au final, je me suis dit que ça, c'était des détails, en fait, quoi. Donc, par moment, il y en a qui me disaient, ouais, ah, mais ça, c'est bien, ça te va bien, cette coupe et tout. Tu sais, les gens, ils sont toujours surpris, tu sais, par les tresses plaquées et tout ça, quoi. Ouais. Moi, j'en fais régulièrement, mais c'est... Moi, je peux faire ça comme coiffure. Tu sais, ici, les nanettes, elles peuvent soit pas se coiffer ou juste passer une brosse, un truc. Je peux pas me le permettre, mais bon. C'est des petites choses comme ça qui étaient un peu récurrentes.
Les Françaises préfèrent d'être traitées comme les femmes mûres. Donc, elles se maquillent sexy. Et le montre décolleté, les jambes, le corps de femme. Peut-être les japonaise préférait d'être vue comme jeune fille qui ne connaisse pas la joie du corps, l'amour, comme ça. Moi, je pense pas que je dois changer mon style parce que c'est déjà une partie de ma vie, les habits. C'est... Et puis, bon, je pense pas, mais pour regarder comment les Français choisissent leurs accessoires, les habits, la couleur, c'est vraiment intéressant pour moi.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyá. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Levántate, cubrimo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. Cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su rumbo. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán, levántate, güey.
J'imaginais pas voir un ami ici, tu vois, un ami comme mes amis que j'ai au Chili. Je disais, mais comment je vais m'exprimer? Est-ce que ça. Parce que c'est vrai que toi, quand tu arrives ici, toi, c'est différent, c'est les codes, tu vois, c'est des codes qui ne sont pas les mêmes par rapport à même la musique. Tu vois, quand tu es jeune, tu écoutes la musique, quand tu es adolescent, et avec tes copines, tu mets la chanson et tu sais que, nous, on va être contents parce que c'est la musique qu'on écoutait dans ces moments-là. Mais ici, c'est vrai qu'on n'a pas tous ces codes de culture, même de musique, tout ça. Et je ne sais pas, pour ça, pourquoi j'étais enceinte. Tu vois, j'étais ici en France. Et là, c'était un moment dur pour moi parce que j'étais à l'hôpital, j'étais déjà sans ma mère, sans ma famille, tu vois, que j'ai au Chili. J'avais que juste, mais bon, mon mari, je l'adorais tout, mais lui, il travaillait, il pouvait pas, c'est pas comme quoi, toi, un ami qui vient te voir à l'hôpital, tu vois, et j'étais toute seule, c'était triste. Mais je sais que si j'avais été au Chili, j'étais remplie parce qu'ils voient les gens, ils vont te voir, tu vas voir les bébés qui en est, ils t'amènent des cadeaux, des choses. Tu es jamais, quand tu es à l'hôpital, tu es jamais seule. Toujours, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Mais si j'étais toute seule.
Je m'ennuie un peu, hein, faut bien dire ce qu'il y a, donc. Je faisais énormément de sport, mais la plupart du temps seule, hein, puisque je faisais de la planche à voile, et ça, les Wallisiennes, même les Wallisiens, c'était pas leur truc, quoi. Se balader tout seul sur une planche au milieu du lagon, c'était pas du tout dans leur mentalité, encore moins pour une femme. Et je lisais beaucoup. Et j'aurais voulu faire partie de certaines... Ça m'aurait intéressé, d'autant que mon mari était très impliqué, lui, dans la chose publique, ça m'aurait intéressé. Mais lui ne souhaitait pas du tout que je le fasse, il me tenait à l'écart.
On ne parle pas aux gens, ou on ne complimente pas les gens de la même manière qu'on fait chez moi, en fait. Il y a des choses qu'on peut dire que ça ne va pas forcément... ça va pas gêner ou ça va pas déranger, alors qu'ici oui, ça peut quand même déranger, les gens peuvent mal le prendre et voilà quoi, ne pas être content. Donc il fallait quand même faire attention à des francs-parlers qu'on avait effectivement chez moi et pas ici, quoi.
Moi j'ai l'impression qu'il y a moins de racisme maintenant. Ceci dit, ça existe, oui, ça existe et ça existait des choses du genre Ah, t'es algérienne, on dirait pas. On dirait pas, ça veut dire que tu es relativement bien élevée, je suppose. Ouais. Moi, je comprends comme ça. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais je crois quand même, parce que beaucoup de personnes d'Algériennes que je connais ont eu droit à ça. Ouais. Voilà. Aussi par rapport au français, mais le français je l'ai appris en Algérie, puisque c'était après l'indépendance, donc c'était encore l'enseignement français. Donc ça, on va dire que c'est plus un manque d'information.
Moi j'étais partie 3 ans sur Arras étudier, d'abord le Vitrail, après je suis passée à Tourcoing, et après là je suis à Lille, mais... Progressivement, dans le temps, j'ai rencontré des gens, j'ai pu côtoyer d'autres mœurs aussi, si tu veux. Parce que chez nous, du moins, on a plus été élevés par rapport à la religion et tout ça. Du moins, c'est des choses qui sont tout de suite mises en avant, quoi. C'est un rapport à la culture qui doit être très soutenu. Et ouais. Tandis qu'ici, j'avais quand même plus de liberté, quoi, par rapport à mes choix, par rapport à beaucoup de choses, quoi, dans la vie privée, que ce soit par rapport aussi aux choix artistiques et tout et tout.
C'est super dur de se dépatouiller entre les deux, d'un côté dire « Bah non, vous savez, les femmes arabes, elles sont pas toutes pareilles », et puis de l'autre côté de dire « Bah oui, je sais que toi aussi t'es une femme arabe, mais on n'est pas obligé d'être pareille ». Par exemple, cette année j'étais pas ici pendant le ramadan, l'année dernière j'ai passé le ramadan, enfin j'étais en France, quoi, à Lille. Et du coup, je suis allée au kebab, une clope au bec, pour commander mon kebab, quoi. Et le gars s'est permis de me faire la morale. Ouais. Parce que, hé, petite sœur, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et non, je suis pas ta petite sœur. Et tu me demandes pas ce que tu es en train de faire, et ça te regarde pas. Après, il y avait aussi un petit côté qui parfois peut être chiant, un petit côté d'exotisation de l'autre, où on recherchait un peu de côté exotique en moi. Ça veut dire qu'on allait rentrer chez moi, on allait me demander si j'avais pas... Ah, Myriam, tu nous fais un petit thé à la menthe? Enfin, je veux bien, je suis marocaine, j'aime bien le thé à la menthe, mais c'est pas pour autant que je me passe mes journées à aller au marché choper de la menthe ou que je passe mes journées à choper des légumes pour faire du couscous, quoi. Enfin, là, je raconte vraiment des clichés qui font rire les gens, mais c'est la réalité des questions que te posent des gens quand ils rentrent chez toi. Puis aussi le côté doublement exotique, c'est-à-dire que je suis marocaine et en plus, je ressemble pas à une marocaine. Ouah, t'es marocaine et t'as des dreads et t'écoutes du punk, c'est trop génial, quoi. Enfin, et du coup, voilà, enfin, ça pouvait être chiant. Parfois, les gens qui étaient à la recherche de folklore, en fait, en venant me voir ou en étant avec moi, mais... La répercussion, c'est plus la représentation, c'est plus ce que ça induit auprès des gens que je vais rencontrer. Donc, des gens que je vais rencontrer qui, de fait, vont poser des questions par rapport à ce que leur envoie la télé sur ce qu'est une femme arabe. Et du coup, bah, la télé leur dit une femme arabe, c'est une femme
musulmane.
Voilà, musulmane. Et du coup, tout le monde va te demander si j'ai mis du cochon dans l'assiette, ça va aller. Enfin, je comprends, c'est une petite attention et c'est super gentil, mais il y a de l'alcool. Alors que juste avant, t'étais dans une grosse discussion sur le fait que t'étais anarchiste et féministe.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au tout début, ça c'était flagrant, il y avait 2 catégories d'Européens, c'est-à-dire 3, si on peut dire.
ceux qui étaient en poste, qui étaient fonctionnaires. Donc c'était quand même l'esprit colonie. Hein. Je vous dis, il y avait cocktail chez le gouverneur, parce qu'à l'époque c'était un gouverneur. Hein. Moi j'y étais en tant que femme de chef de service, donc c'était des tralala. Et puis j'avais vraiment aucun sujet de conversation commun, hein, puisqu'elles ne parlaient que de leurs femmes de ménage. Et des difficultés qu'on avait à les éduquer, à les dresser, machin, et patati, patata. D'autre côté, les hommes parlaient politique, chasse et pêche. Donc ces gens-là n'étaient pas du tout intéressés par la vie wallisienne. Puis d'ailleurs, ils ne s'y seraient pas mouillés. Hein. Il y avait de toute évidence des Européens qui étaient racistes, hein, qui considéraient les Wallisiens futuniens comme de toute façon disposant de moyens intellectuels inférieurs aux autres, aux leurs. Et qui étaient là, oui, pour tout ce qui était subalterne, mais enfin que, bon, voilà. Et puis surtout pas avoir une intimité ou une amitié avec eux. Non, 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 non. Après, il y avait ceux qui n'avaient peut-être pas un a priori raciste, mais qui étaient surtout là pour faire du fric. Donc ça les intéressait. Ce qui les intéressait, parce qu'il faut voir qu'en multipliant le salaire d'un fonctionnaire par 2,05, ça vous donnait quand même un certain niveau de vie. Donc. C'était un peu la grande vie. Puis après, moi, j'ai eu des amis qui avaient de l'argent, certes, mais enfin, qui étaient très ouverts, qui jouaient au foot et au tennis et au badminton avec les Wallisiens, qui faisaient des trucs avec eux. Hein. Et il y avait aussi des gens comme moi qui étaient installés. Je sentais que je les sentais un peu dépréciés par rapport à la culture aux Wallisiens, mais aussi par rapport aux Européens. Donc ça, c'était une catégorie... c'était la plus restreinte hein, en termes de nombre d'Européens, mais aussi les plus ceux qui se rapprochaient le plus de ma situation, qui m'a toujours... J'avais pas une image très, comment dire, valorisée, très positive des personnes qui, comme moi, avaient quitté leur... c'était vraiment impliqué dans la culture du mari ou vice-versa de l'épouse.
Je me demandais aussi quel rapport t'entretiens aussi à ta langue maternelle, quoi. Du coup, c'est l'arabe, t'es pas berbère.
Ma famille, enfin mes parents et mes frères et sœurs, même quand on était au Maroc, on n'a jamais parlé qu'arabe. Ça a toujours été une espèce de mix de deux mots en français, un mot en arabe, deux mots en arabe, trois mots en français. Et... Après, heureusement qu'il y a mes deux grands-mères, que quand elles m'appellent au téléphone, je suis bien obligée de parler qu'arabe. Et sinon, non, en France, j'essaye quand même, alors c'est peut-être cliché, mais j'essaye quand même de parler arabe avec les personnes qui peuvent, ça veut dire... mes amis kabyles, mais c'est compliqué puisqu'ils parlent kabyle, donc on essaye de trouver des terrains d'entente. L'épicier, j'essaye de faire en sorte de lui parler. L'épicier de mon quartier, il est arabe, j'essaye de faire en sorte de lui parler que arabe. Enfin, que arabe quand il veut, des fois il veut pas. J'essaye de parler arabe avec les personnes avec qui je peux le faire parce que je trouve ça classe au fait de parler plusieurs langues. Quand je suis au Maroc, ça m'est indifférent de parler français ou arabe, je m'en fous. Quand je suis en France, je parle essentiellement que français. Mais des fois, quand tu rencontres quelqu'un, t'as un petit sentiment de, voilà, de partager quelque chose, d'appartenir à un même ensemble culturel. Et ouais, ça me fait chaud au cœur, en fait, de parler arabe ici.
Les droits de femmes en France, c'est vraiment fort par rapport au Japon. J'aime ça. La coutume japonaise, on demande encore pour les femmes la soumission. Toujours... Après, il faut pousser les hommes devant et puis il faut aider les hommes comme ça dans la statue de société japonaise. Mais je n'aime pas trop cette situation. Je déteste, je peux dire.
Donc c'est une personne d'origine algérienne, enfin algérienne tout court, hein, parce que comme moi, elle est née en Algérie, donc on est algérienne. On vit en France. Et un de ses voisins lui a dit là-bas chez vous, les hommes, ils frappent les femmes. Hein. Et elle lui a dit Mais monsieur, SOS femme battue, ça n'a pas été inventé pour nous. J'ai trouvé que c'était une très jolie réplique. Parce que c'est trop de clichés. Comme si chez nous, on tapait comme ça les femmes impunément. Non, non, faut pas exagérer. Ça arrive, comme ça arrive ici, ça arrive et c'est condamné. C'est la femme primo, elle a le droit de porter plainte, ça existe. Hein. Et même, c'est condamné par la famille, par l'entourage. Tu vois, c'est pas normal, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Voilà, ça arrive, mais ça veut pas dire que c'est normal.
Ouais.
Et ça, donc elle était offusquée, cette dame. Elle m'a dit, tu te rends compte ce qu'il m'a dit Moi, je dirais que c'est raciste, ça. Ouais. C'est raciste, et puis c'est bête, et c'est très bête, voilà.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, faites le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable? Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements? Sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
J'ai fait du français à l'école, mais ce n'est pas forcément le terme correct ici au quotidien pour s'exprimer. Alors j'avais des difficultés à me faire comprendre et à m'exprimer aussi. Et c'était aussi difficile pour moi par rapport au fait que je cherchais du boulot, bien sûr. Alors à la NPE, ils me disaient, ben, vous, madame, vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas correctement français. Alors il fallait quand même essayer de s'améliorer un petit peu. Donc oui, c'était quand même difficile pour moi, quoi. Et beaucoup de codes aussi par rapport au, tu vois, code du travail, aux plein de choses qu'il faut respecter, qu'on sait que c'est comme ça. Oui, beaucoup de choses en fait qu'il a fallu apprendre en fait, quoi. Ouais, apprendre comment ça fonctionne, comment ça marche ici, par rapport à plein de choses, quoi. Les choses les plus simples comme les plus compliquées, administration et tout. C'était pas très simple, oui. On m'a toujours dit qu'il faut aller à l'NPE ou il faut aller dans des organismes de formation qui aident aussi les immigrés et tout, les étrangers. Mais en fait, c'est surtout mon mari qui qu'on a parlé, on a discuté un petit peu ensemble avec les amis, entre les amis surtout, qui m'a un peu donné les clés pour essayer de trouver les solutions ou voilà, quoi, régler les choses. Donc c'était plus auprès de mes amis qui étaient autour de moi.
J'ai venu la première fois en 2005. Là, j'ai venu toute seule parce que j'étais assistante de langue au collège. Et là, je parlais pas français du tout. Donc là, c'était difficile par rapport à faire les démarches, les papiers, tout ça, la CAF ou la sécurité sociale, tout ça, parce que bon, j'arrivais à les endroits, j'arrivais pas à m'exprimer parce que comme je parlais pas très bien le français, les gens ne me comprenaient pas. Du coup, c'était tout en catastrophe. J'arrivais pas à communiquer ce que je voulais. Et quand j'ai fait l'effort de communiquer, les gens ne faisaient pas non plus un effort pour me comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui était solidaire, il m'aidait à faire la démarche des papiers. Et oui, parce qu'en fait, au Chili, j'ai fait 6 ans. 6 ans d'université. Et j'ai travaillé 3 ans. Après, j'étais en tant que salarié. Et ici, quand j'arrivais à la fac pour continuer mes études, ils me sont validés à licence. Ça veut dire 300. 300 de mon diplôme, de les études que j'avais fait au Chili. Donc j'ai recommencé ici à faire un master 1. Peut-être que c'est dans mon esprit, j'ai fait toujours, bah, je vais vers les gens, je parle, tu vois, des fois j'ai dans mon opinion, pour montrer que bon, j'ai mes compétences, je sais ce que j'ai dit,
Donc, première difficulté, je voulais rentrer dans le secondaire. J'avais une licence, mais de psycho. Et là, il y avait quand même pas mal d'Européennes, épouses de fonctionnaires, qui arrivaient avec moins que moi, hein, moins de diplôme que moi, ne serait-ce que le bac. Et elles avaient facilement un poste. Pas titularisé, mais enfin un poste. Bon, elles m'ont posé tout de suite l'argument, mais oui, mais vous n'avez pas une licence d'enseignement, effectivement, la psychologie. Mais bon... Donc on sentait vraiment que si j'avais pas ce poste, c'est que j'étais mal mariée, si je puis dire. Donc je suis allée, je me suis tournée vers l'enseignement primaire, parce que là j'avais bien le niveau, sachant qu'à l'époque, le seul niveau exigé, c'était le certificat d'études. Et là on m'a dit, ah mais oui, mais vous n'avez pas à l'église. Donc je pratiquais pas du tout, je me suis mariée, mais j'ai refusé de me marier à l'église.
Ce qui m'a choqué, si tu veux, après, faut pas le prendre mal, quoi, mais ce qui m'a choqué quand je suis arrivée à Arras, c'est que j'étais la seule étudiante black de tout l'établissement, quoi.
Ouais.
Donc ça, déjà, je comprenais pas trop, je disais, ah, c'est bizarre, et ce que j'ai pas apprécié, qui est pas forcément méchant, mais c'est que j'étais plus ou moins la bête curieuse, quoi, tu sais, tout le monde disait, oui, bah, toi, tu viens d'où, bah, comment t'es arrivée là, et bon, au début j'avais un peu de mal, quoi, mais après ça s'est bien passé. Mais en gros, non, j'ai pas eu la sensation d'avoir rencontré vraiment des difficultés. Du fait que j'avais déjà une tante aussi qui était sur Paris, elle m'a fort aidée pour trouver un logement sur Arras. Après, ben, les relations amicales et tout ça ont fait que ben, au final, ben, tu t'en sors tout seul. Du moins, il y a des déménagements, il y a toujours des gens pour donner un coup de main.
On habitait à 4 familles dans la même maison. Et par contre, on a pris une maison à nous-mêmes. On est rentré par la fenêtre. On a habité à deux familles, moi et puis ma belle-sœur, deux frères. On habitait pendant 15 jours dans la maison. On a fait une serrure pour nous rentrer et on s'est fait renvoyer. On est reparti habiter chez ma belle-mère. C'était le temps que c'était la crise pour avoir une maison. Et après, on a eu un baraquement. J'avais peur de rester dans un baraquement. J'avais peur que ça brûle.
D'accord.
Et on a fait plusieurs demandes. Et on a quand même eu une maison. C'était celle-là. Celle-là que je suis interviewée, quoi.
D'accord.
Cette maison-là qu'on a eue. Et tu vois, c'est là qu'il y avait encore de la jalousie par les Français. Que c'était une Polonaise, qu'elle a eu une maison et il s'est interrogé pourquoi.
En fait, jusque-là, je ne me plaignais pas beaucoup parce que je partais du principe qu'il y avait des gens qui galéraient beaucoup plus que moi. Les personnes qui arrivaient en France qui étaient sans papier, qui ne parlaient pas un mot de français ou qui parlaient un français très mal, qui étaient très typés pas français. Et que du coup, de fait, c'était beaucoup plus dur pour eux et que moi, je me disais tout le temps que je m'en sortais plus ou moins bien. Parce que je suis une grande gueule, parce que je sais m'imposer, parce que je sais faire en sorte que les gens m'écoutent, parce que je parle très bien français, parce que je connais très bien les règles, les lois et mes droits, et je sais très bien faire jouer tous les éléments en ma faveur pour que ça aille vite. Je m'en sors mieux que d'autres gens, mais c'est pas pour autant que l'administration ne m'envoie pas une violence inouïe tous les ans. Enfin, quand j'arrive à la préfecture, pour un truc, on me demande pas mon nom, on me demande mon numéro. À la préfecture, je suis un numéro de dossier. Sur le côté... Enfin, inquisiteur, où on te demande des papiers qu'on ne demandera jamais à un Français, de trucs par rapport à tes parents, de trucs de tes relevés de compte, de machin, de par qui t'es hébergé, de est-ce que t'entretiens des rapports avec la personne qui t'héberge, tu loues, dans quel endroit. Et du coup, oui, l'administration, elle a... Après, il y a toujours... Enfin, là, je parle des règles. Après, moi, je fais toujours en sorte de contourner les règles et de m'arranger pour juste leur dire le blabla qu'ils veulent et puis m'en sortir très vite, mais... Ou alors des fois, quand ils te font traîner les papiers pendant super longtemps, sachant que tant que t'as pas tes papiers, tu peux circuler parce qu'ils te donnent un pauvre papier, mais qu'ils te donnent pas droit aux APL, et que tu galères financièrement. Ou l'année dernière, enfin ça c'était il y a 3 ans, où j'avais trouvé un taf qui était super chouette et tout, un petit boulot à temps partiel, où il y avait un gros problème de retard de titre de séjour. Du contre-temps, ils m'avaient donné juste un espèce de récépissé. Mais sur le récépissé, il y avait écrit « ce récépissé ne permet pas à son détenteur de travailler », en sachant que dans la loi... Nous avons le droit de travailler avec un récépissé. Mais l'employeur ne voulait pas se faire chier parce qu'il me dit « Ouais, mais c'est écrit sur votre papier que vous n'avez pas le droit. » Je lui dis « Mais appelez-les, je vous promets, j'ai le droit de travailler et tout. » Mais juste, pourquoi est-ce que l'employeur va se faire chier à galérer avec une pauvre étudiante rebeu qui va lui prendre la tête avec son pauvre papier alors qu'il pourrait très bien embaucher un Français et une Française qui allait faire le boulot très vite et pas se prendre la tête sur les papiers, quoi. Mmh. Et du coup, oui, les papiers, c'est chiant. L'administration est raciste. On nous parle comme de la merde. Et ça, c'est un truc de fou. On se permet de nous parler d'une manière... Alors bon, l'administration, elle est arrogante avec plein de gens, mais avec les personnes étrangères, elle se permet une arrogance et une violence qu'elle ne se permet pas avec d'autres gens, en fait.
Comme j'étais polonaise, je n'avais pas de prime à l'accouchement et je n'avais pas de prime du tout. Il fallait avoir 3 enfants pour avoir l'allocation familiale. Pour les Françaises, ils ont eu une prime à l'accouchement. Et aussitôt qu'ils ont un enfant, ils ont eu de l'allocation, quoi. Mais ils auraient été naturalisés français, j'aurais eu à l'accouchement comme les Français, quoi. Mais comme mon mari, il ne voulait pas se naturaliser, il voulait être polonais, j'ai rien eu du tout. Ça, c'est sûrement parce que ses parents, c'était pareil que mes parents, ils voulaient repartir en Pologne.
تشنم الحرمة كالسبب Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 et vous êtes toujours avec Elle Cause.
Donc la musique que vous avez écoutée, la toute première, c'était Violetta Villa avec 16 lattes. Ensuite Violetta Parra avec Arauco Tene Una Pena. Il y avait aussi Kazé qui a interprété Chez Moi. Et enfin la chanteuse Noira qui a interprété Feshnam.
Vous avez tous chanté ma beauté, vous avez tous chanté mon honneur, nul n'a pensé à mes droits. Je suis autant considérée qu'une bête. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, nous allons devoir faire les comptes. Donc c'est là l'un des couplets de la dernière chanson qu'on a écoutée et qui nous a été donnée par une des femmes que l'on a rencontrées.
Voilà, à noter aussi que Arauco Tene Una Pena de Violetta Parra parle de la colonisation donc, fait par les Occidentaux voilà, et au détriment des Amérindiens. Et ça parle aussi donc, de l'exploitation des Amérindiens, toujours par les Chiliens, qui est toujours d'actualité.
Donc merci à toutes ces femmes qui nous ont permis de récolter des témoignages sur des thèmes et des sujets qui nous intéressaient. Donc il y aura une deuxième partie au documentaire où il y aura encore d'autres thèmes abordés. Donc voilà, le choix des questions et des thèmes a été fait en collectif. Donc c'est pour ça qu'on ne récolte pas forcément les questions sont forcément orientées par rapport à ce qui nous intéresse. Et donc voilà, ça peut être à double tranchant, mais et donc pas forcément exhaustif. Il y a des thèmes qui ne sont pas abordés. Mais bon, comme tous nos documentaires, de toute façon. Voilà, Myriam.
Ouais, donc comme on le disait, on a essayé de récolter des témoignages de femmes d'horizons divers, mais comme on vient de le dire, ça n'a rien d'exhaustif pour autant. Par exemple, il n'y avait pas de témoignages de femmes migrantes qui soient lesbiennes, ni de femmes migrantes qui soient sans papiers, voire les deux. Et sinon, ce qu'on a voulu montrer à travers ces témoignages, c'est la manière dont les différents rapports de domination peuvent se croiser. Donc ce qu'on entend par rapport de domination, c'est donc le sexisme, le racisme, l'homophobie et aussi les rapports de domination de classe sociale. Mais donc globalement, ce qu'on a voulu donner à entendre, c'est des témoignages de parcours divers et péchus de femmes qu'on n'entend pas souvent parler. Et voilà, on avait envie aussi de leur donner la parole.
Riche en expérience.
Ouais.
Ok, donc notre émission touche à sa fin. Vous retrouverez la deuxième partie donc le mois prochain, le premier vendredi d'avril, toujours sur Radio Campus, donc de 20h à 21h. La semaine prochaine, vous retrouverez La Voix sans maître. Et voilà, si vous avez envie de réagir, vous pouvez tout à fait nous écrire à l'adresse à l'email suivant. Donc elcause au pluriel, @herbefolle.org. Vous pouvez aussi réagir sur notre blog, je vous donne l'adresse, elcause au pluriel blogspot.com. Et voilà, on va se quitter sur un titre des Andrew Sisters, Bimmer Beast de Shame. Alors excusez-moi pour la prononciation.
Et aussi on voulait annoncer une manifestation
Oui, tout à fait.
Tu veux en parler?
Voilà. Donc, le lundi 8 mars, c'est censé être la journée de la femme. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont envie de
se la réapproprier.
De se la réapproprier.
Et tout le temps.
Et tout le temps, vous pouvez éventuellement venir à 18h lundi, rendez-vous place de la République. Et sinon, on espère qu'il n'y a pas que ce lundi que vous vous manifesterez. Et voilà.
C'est bien dit, je crois.
Donc, des choses à rajouter ?
Ouais, il y a différents collectifs qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Il y a le collectif de chez Violette, entre autres.
Ouais, Idée à coudre.
Idée à coudre.
Sud-Éduc.
LGBT.
Voilà, exactement.
La CNT.
Ok. Ouais.
Et il y a surtout des individus voilà, qui sont réunis. Et il y a le CCL.
J'ai
failli oublier le CCL et le GDAL. Ok, voilà.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Till I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane, means you're grand. By me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven derbar. Each language only helps me tell you how grand you are. To explain, by me, Mr. Shane. So kiss me and say you understand. By me, Mr. Shane, you've heard it all before, but let me try to explain. By me, Mr. Shane means that you're grand. By me, Mr. Shane, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven dubois. Each language only helps me tell you how grand you are. You will understand.